Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 18 janvier 2018. Alors, comme disait quelqu'un qui m'est très proche, on est le 18-01-18. Alors, on est à l'émission Les Voix de Service
ça
Magazine.
Ça n'émeut personne.
Non, j'ai remarqué,
j'ai même pas réagi, là. Il y a un problème. On recommence.
Fait que j'aurais dû essayer ça dans la période de rodage de tantôt.
C'est ça, oui.
Voir si ça allait marcher. Mais il y a Mathieu quand même qui m'a encouragé.
Tout à fait. Je suis encore ému.
Oui, n'est-ce pas? Alors, mesdames, j'ai Marie Lalande avec moi, Monique Kirouac.
Bonjour.
De quoi
bonjour.
Allons-nous parler pour me sortir de ce trou?
Alors, moi, je vais vous parler d'écran et de contrôle familial ou
garde
de contrôle.
Oui,
en fait, on va essayer d'en parler.
Oui.
Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de douance chez les enfants.
Oh,
ouais.
OK. Monique.
Alors moi, je reviens sur... En fait, c'est la suite de la semaine dernière. Je vous ai présenté
oui.
une des 10 découvertes du concours de Québec Science. Alors, je vous en présente deux nouvelles. Une qui est dans le domaine de la génétique et la deuxième, en médecine. Vous êtes vraiment indisciplinés, les amis. Et j'aurai une petite nouvelle sur des robots à gogo.
Ah.
Les robots à gogo, c'est pas ça qui était écrit sur ma feuille?
Ben, c'était le titre.
C'est écrit robot, en tout cas.
Mais oui, mais c'était une surprise.
Ah bon, OK. Et de mon côté, je vais vous parler de hockey et de hockey. Mais pas de la Ligue nationale, pas des Jeux olympiques.
Et pas de la même façon.
Et surtout pas de la même façon. Mm-hmm. Alors, Mathieu, on commence? Allons-y. Alors, Monique, tu nous... À toutes les semaines, tu nous fais connaître un petit côté de la science.
Oui.
Et aujourd'hui, tu nous parles... Le mot « rhésus », je le connaissais parce que je fais souvent des mots croisés et ça arrive que c'est une question de mots croisés.
Bon.
Mais je ne dis pas la réponse.
Non.
Vas-y.
Alors, écoutez, je vais vous lire un texte de Maxime Bilodeau pour la revue Québec Science de janvier-février 2018 et le titre de l'article « Pauvre comme rhésus ». Alors, le plus grand des maux est de devoir soutenir le fardeau de la pauvreté, a écrit le poète persan Saadi il y a 800 ans. Il était visionnaire, car encore aujourd'hui, en épidémiologie, le statut social est de loin la variable la plus importante pour prédire le risque de maladie et de mortalité.
Mmh.
Aux États-Unis, on estime par exemple que les individus privilégiés vivent en moyenne 10 ans de plus que les personnes défavorisées. C'est pas banal, hein,
mm-hmm.
10 ans. C'est énorme, s'exclame non pas Monique.
Vous êtes tous d'accord.
Mais Louis Barriero, qui est professeur au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Donc, si nous pouvions, du jour au lendemain, éradiquer le cancer chez l'humain, nous augmenterions notre longévité de 3 ans en moyenne. Ça semble beaucoup, mais c'est 3 fois moins que si nous pouvions éliminer les inégalités sociales, illustre le scientifique qui est du centre de recherche du Centre universitaire de Sainte-Justine. On explique traditionnellement cette vulnérabilité des moins nantis par une accessibilité réduite, bien sûr, aux soins de santé et à l'éducation, par une prise élevée de risques et par de mauvaises habitudes de vie, comme le tabagisme ou la sédentarité.
Est-ce qu'on peut ajouter l'alimentation, peut-être?
Probablement. Certainement. Dans les habitudes de vie, oui. Vous avez raison, cher collègue. Alors, de mauvais plis qui pèsent lourd sur l'organisme et son système
humanitaire.
immunitaire. Mais le statut social lui-même a-t-il un effet direct sur la réponse de ce dernier? C'est la question que se sont posées ces chercheurs. Pour le savoir, Louis Barriero et ses collègues ont étudié 45 macaques rhésus. Donc, les rhésus sont des macaques, des petits singes.
Mm-hmm.
Femelles, une espèce cousin de l'humain, dont la hiérarchie sociale est linéaire et stable. Les membres d'un groupe ont un rang du plus dominant au plus dominé. Les chercheurs ont constitué 9 groupes de 5 femelles qui ont cohabité assez longtemps pour qu'une hiérarchie s'installe. Tous les animaux ont eu un accès aux mêmes soins, à la même nourriture. Lorsqu'ils ont analysé des échantillons sanguins de leurs cobayes, les scientifiques ont constaté des différences importantes dans la composition du système immunitaire, abondance de certains types de globules blancs ou lymphocytes, en fonction du statut social. Ils ont aussi mesuré l'activité d'environ 9000 gènes dans ces cellules immunitaire et constater que l'expression de plus de 1800 d'entre eux dépendait directement du statut. Avec pour conséquence de rendre le système immunitaire des femelles dominées plus irritable que celui des dominantes. Cette réactivité a été confirmée lorsque les chercheurs ont mis les globules blancs des singes en présence d'une toxine bactérienne imitant un pathogène. Donc ceux des dominés ont réagi de manière anormalement forte, donc ils ont été plus affectés. Mm-hmm. Les réponses immunitaires des femelles de rang inférieur ont été bien plus exagérées que celles des dominantes, raconte Luis Barriero. Une telle réponse, synonyme d'inflammation disproportionnée, peut avoir des conséquences néfastes pour la santé. Un an plus tard, les chercheurs ont chamboulé les groupes. Ils ont placé les dominés avec les dominés, les dominantes avec les dominantes. Les hiérarchies se sont redessinées. Des dominantes devenues parfois dominées et vice-versa. Au bout de 3 mois, surprise, face aux infections, les réponses immunitaires se sont alignées avec les nouveaux statuts sociaux. Même si elles avaient déjà été dominantes, les femelles macaques, au rang les plus bas, ont eu les plus fortes réactions immunitaires. Mm-hmm. L'étude, publiée en novembre 2016 dans Science, est la première à démontrer une plasticité de la réponse immunitaire en fonction du statut social chez l'animal. Bien que ces conclusions soient difficilement généralisables à l'homme, contrairement au macaque, son statut social est multiple et varie selon les contextes, elle pose néanmoins d'importantes questions. Par exemple, devrions-nous, collectivement, tendre vers des sociétés plus égalitaires? Après tout, un tel changement serait plus efficace que bien des médicaments, du moins en théorie. C'est très difficile à prouver. Il faudrait notamment définir ce qu'est l'égalité, convient le scientifique de 37 ans. Je pense plutôt que nos travaux permettent de mieux comprendre que des voies biologiques peuvent être influencées par le statut social et l'efficacité des mesures que l'on met en place peut changer cela, peu importe leur nature. Alors voilà, c'était donc un article de Maxime Bilodeau pour la revue Québec Science et on comprend pourquoi cette découverte a été retenue parmi les 10 plus importantes. Mm-hmm. Et il n'a pas travaillé seul, ce chercheur. Il était accompagné de Joaquin Sanz de l'Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine, des chercheurs de l'Université Duke, de l'Université d'Emory, de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, de l'Université Wayne State et des musées nationaux du Kenya. Donc on voit que...
Le monde y a participé.
À peu près. Donc, un chercheur ne travaille jamais seul. Et on parle souvent de multidisciplinarité, mais c'est aussi multilieu.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Vraiment très intéressant. Merci, Monique.
Ça fait plaisir.
Alors, de mon côté, c'est le premier de mes 2 articles sur le hockey cette semaine. Et dans ce cas ici, c'est comme la suite d'un article que je vous ai lu il y a probablement 1 an à peu près.
D'accord.
Je n'ai pas regardé exactement
dans mes archives.
Alors, c'est un article qui a été écrit par Yves Boisvert. Il y a 1 an, c'était Yves Boisvert aussi, mm-hmm, qui l'avait écrit dans la presse du 13 janvier Ça s'intitule « Les fruits amers de Joé Junot ». Un an plus tard, Joé Junot ne l'a pas vraiment digéré. Mais bon, si le Nunavik ne veut plus de son programme de hockey, il l'implantera ailleurs. Des Naskapis près de Shefferville aux gens des Îles-de-la-Madeleine ou à Saint-Agapit. Il garde ses amis de ce nord du nord. Il lui donne encore des nouvelles de leur chasse. Il l'invite à la pêche. Ils lui disent qu'il s'ennuie. Un beau jour de février, l'an dernier, les instances politiques du Nunavik ont décidé de mettre fin au volet élite de son programme de hockey. Trop cher, pas assez participatif, il absorbait 40% du budget de 2,2 millions et inefficace pour prévenir le crime. Le programme, en effet, émanait d'un budget de lutte contre la délinquance. Puis, en novembre, c'était couru, c'est le reste du programme qui a été aboli. La société Makivik, tout en reconnaissant l'apport de Joé Junot, a décidé d'implanter son propre programme de hockey. Jeudi, l'ancien joueur de la Ligue nationale, clairement encore écorché d'avoir été éconduit, a présenté aux médias une sorte de contre-rapport. Il émane d'un professeur de kinésiologie de l'Université de Toronto, spécialiste des programmes de sport pour le développement des jeunes, John Kearney. Ce qu'il dit, c'est vrai, le hockey cadre difficilement dans un programme de prévention du crime. Au départ, penser faire diminuer les statistiques de crime par un programme sportif, c'est faire fausse route. Il ne faut pas les voir comme un moyen d'éliminer les mauvais comportements, mais plutôt comme des programmes de développement d'attitudes positives, nous dit M. Kearney. Vrai aussi, on ne peut pas prouver qu'il a réduit le décrochage scolaire. Au départ, la participation au programme était liée à l'assiduité scolaire. Excusez. Il y a quelqu'un qui est rentré dans le studio. Mais puis la porte a fait des drôles de bruit.
Oui, oui. Des petits... Oui.
Donc, je reprends. Vrai aussi qu'on ne peut pas prouver qu'il a réduit le décrochage scolaire. Au départ, la participation au programme était liée à l'assiduité scolaire. Mais dans cette région où les classes sont dégarnies et les horaires aléatoires, Junot a rapidement vu que le hockey était utilisé de manière punitive. Des jeunes qui manquaient l'école étaient souvent victimes de parents alcooliques ou de milieux violents. Les priver en plus de hockey pour cause d'absentéisme était une double punition. Ce volet a donc été abandonné et on lui en a fait le reproche. Un programme de sport de haute qualité, c'est déjà un gain pour des communautés qui n'ont à peu près rien en la matière. Il faut le voir comme un programme de développement positif des jeunes. Les chercheurs ont vu, comme moi, les jeunes dans les écoles se promener fièrement avec les vestes des Nordiques. Nordiques, c'était le nom des équipes de hockey de cette région-là.
Ah, du Nord.
Oui.
Ah, d'accord.
C'est N-O-R-D-I-K-S et non pas Q-E-S comme l'équipe de Québec, oui. L'ancienne équipe de Québec. Ils ont entendu, comme moi, les joueuses bantam raconter comment le simple fait de participer à un camp d'entraînement élite les faisait échapper à la douleur de leur milieu, un court moment sans doute, mais un court moment où elles avaient accès à la possibilité de se valoriser, de se dépenser. Kearney et Poucher, son assistant, raconte avoir visité à Inukjuak un superbe gymnase tout neuf où une vingtaine d'enfants jouaient, mais où il n'y a pour ainsi dire aucune organisation, aucune structure, bref, aucun adulte pour encadrer et faire avancer les choses. Bref, on a eu beau rénover les arénas, acheter des zambonis, il faut des gens. Joé Junot et ses assistants étaient ces gens. Pour Junot, la vie continue. Il démarre des projets hockey dans la région de Québec. Il a des projets ailleurs. N'empêche, il est particulièrement blessé de lire que son programme sera remplacé par un réseau de hockey inuit par les Inuits pour les Inuits. Ça n'a jamais été un programme de blancs pour les Inuits, c'était un programme de gens pour les gens. De Montréal, difficile de juger de l'état actuel des choses. Stephen Hendry, un porte-parole de Makivik, m'assure qu'une Inuit, Nancy Ann Gray, a pris en main la situation pendant cette année de transition et que déjà cette année, autant de jeunes participent au programme. Juno entend des rapports pas mal moins optimistes. Les jeunes qu'on a formés il y a 11 ans, ce sont des amis. Ils ont 21, 22 ans. Ils ne demandent qu'à être des leaders, mais ils ne peuvent pas l'être sans support, avec un mentorat continu, des promoteurs forts, des fonds alloués au mérite. Les élus inuits ont décidé qu'ils feraient mieux les choses et on est un peu mal placé, à quelques milliers de kilomètres de là dans le sud, pour prétendre dire mieux qu'eux ce qui est bon pour les enfants du Nunavik. Mais 11 ans plus tard, pour avoir été témoin aussi d'un petit bout de cette aventure humaine un peu folle, je crois pouvoir dire qu'elle a porté plusieurs fruits magnifiques, même s'ils sont un peu amers à avaler cet hiver. Alors c'était des extraits plutôt d'un article de Yves Boisvert dans la presse, ça s'appelle « Les fruits amers de Joe et Juno ». C'était dans la presse du 13 janvier.
C'était la chanson Nichuenan que chantait Florent Volant.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, pour le prochain article, je vous demanderai à tous de fermer vos appareils,
vos écrans,
vos iPads, vos téléphones intelligents, et vous portez toute votre attention sur ce que Marie va vous lire.
Oui, c'est ça. Et j'ai essayé tantôt de m'étouffer.
devant tout le monde. J'ai failli, en fait. J'ai dû sortir. Je suis revenue bruyamment. Tout pour essayer de...
De pas le lire.
De nier cet article qui s'appelle « Reprendre enfin le contrôle ». C'est un texte d'Isabelle Audet qui a été publié dans la presse le 15 janvier. L'inquiétude au sujet du temps passé par les jeunes devant les écrans ne date pas d'hier.
Les jeunes et les moins jeunes.
Voilà. Par contre, le drapeau rouge levé par des investisseurs d'Apple la semaine dernière ravive les préoccupations de nombreux parents. Ces investisseurs ont demandé à Apple de trouver des moyens de limiter l'utilisation de ces produits par les enfants. Le géant a alors annoncé qu'il bonifiera sous peu les options de contrôle parental sur ces appareils. Car en fin de compte, il revient aux parents d'aider leurs enfants à trouver un équilibre. Avant de bannir les écrans, il existe des solutions concrètes pour en gérer l'utilisation à la maison. Pour les connaître, la journaliste de la presse en a discuté avec différents spécialistes. Afin donc d'abord de favoriser une prise de conscience en famille, il peut être d'abord pertinent de comptabiliser le temps d'écran sur un tableau. Tous les membres de la famille, et oui, se prêtent à cet exercice au cours d'une période prédéterminée.
C'est ton nouvel engagement, hein, Yvan?
Non, ça devrait être le mien, en fait.
Je ne dis rien.
Chaque personne note le temps qu'elle a passé à utiliser la technologie et pourquoi elle y a eu recours. On a alors une base de discussion plus solide pour encadrer l'utilisation des écrans à la maison. De plus, on peut plus facilement souligner ce que l'on considère comme du temps d'écran de qualité. Cette prise de conscience est cruciale. Avec les adolescents, il peut être intéressant d'aller plus loin. Entre autres, faire comprendre aux jeunes comment les grandes entreprises cherchent à monopoliser leur attention, comment, avec un graphisme efficace, et un système de récompense, un système qui récompense les utilisateurs assidus, elles arrivent à rendre les utilisateurs accros. Les adolescents n'aiment pas être contrôlés, ni par leurs parents, ni par une entreprise. Bien souvent, lorsqu'ils constatent qu'ils n'ont pas le plein contrôle, les jeunes se montrent plus ouverts aux stratégies pour s'éloigner des écrans. La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas laisser les enfants de moins de 2 ans devant des écrans. À cet âge, la priorité va être mise sur la socialisation. Par la suite, pour amener les enfants à prendre eux-mêmes des décisions, on suggère l'utilisation de coupons, de jetons ou de billes pour matérialiser le temps passé devant les écrans. Chaque objet, par exemple, permet de l'utilisation d'un temps prédéterminé, 15 ou 30 minutes par exemple, de tablette ou de jeux vidéo. Si l'enfant dispose d'une heure le samedi, il doit ainsi l'utiliser à bon escient. Il devient alors responsable de la gestion de son temps d'écran. On sait aussi que les enfants ont tendance à se conformer aux demandes lorsqu'ils ont une marge de manœuvre et un certain contrôle. Tous les intervenants s'entendent sur un point. L'utilisation des appareils mobiles, jeux vidéo et ordinateurs comporte moins de risques lorsqu'elle a lieu dans une pièce commune, et ce, peu importe l'âge de l'enfant. À l'adolescence, certaines circonstances peuvent permettre l'utilisation d'un écran dans une chambre, mais pour favoriser les discussions, les parents ont tout avantage à demander aux jeunes de s'installer au salon, quitte à ce qu'ils utilisent des écouteurs. Partout, les téléphones intelligents et les tablettes sont utilisés pour combler un temps d'attente. On insiste toutefois sur l'importance d'apprivoiser ces moments et de faire du temps d'écran une récompense plutôt qu'un réflexe pour se désennuyer. Parce que c'est une solution facile. On peut préparer un sac d'activités ou proposer des petits jeux pour attendre. C'est correct et c'est normal d'avoir besoin d'un moment de répit une fois de temps en temps. Par contre, avec les plus petits, si on voit l'écran comme une occasion de passer du temps ensemble, plus que comme un outil qu'on utilise toujours pour les occuper, on les aide à voir les écrans différemment dès leur plus jeune âge. Mm-hmm. À la maison, les tablettes s'ajoutent souvent aux téléphones intelligents et aux ordinateurs portables. Difficile alors de faire la gestion de tous ces appareils. On pourrait créer un espace de chargement unique pour s'assurer le soir venu qu'aucun appareil n'est oublié dans une chambre. Mmh. On suggère d'ailleurs que les appareils ne soient pas rangés à portée de main pour éviter qu'on les utilise trop fréquemment. Tous les spécialistes interrogés insistent sur ce point. Il est souvent tout aussi difficile pour les parents de se détacher de leurs appareils mobiles. Or, les gestes ont une portée éducative plus grande que les paroles. On fixe des limites, mais ce genre de contrat fonctionne encore mieux si le parent a des règles à respecter lui aussi. On constate qu'on a collectivement perdu le contrôle. Résistons à la tentation de tout arrêter d'un coup. Au cours d'une discussion en famille, il peut être convenu de diminuer progressivement le temps d'écran quotidien, 30 minutes à la fois, jusqu'à arriver à une utilisation plus convenable. Enfin, au-delà de toutes ces stratégies, il peut être pertinent de consulter un professionnel en certaines circonstances. Si l'on constate que notre enfant s'isole, si on remarque qu'il a des difficultés de sommeil, si son comportement change, si son rendement académique est affecté, il pourrait être important d'aller chercher de l'aide. Alors, texte pertinent que j'ai pris pour moi-même.
À plusieurs niveaux.
À plusieurs niveaux, oui, oui. Tout à fait, publié dans la presse le 15 janvier dernier.
Merci Marie. Alors, pour continuer un peu dans cette veine-là, Monique, parle-nous du 5G.
Alors oui, alors techno et Jeux olympiques, vous vous souvenez, on a abordé ça la semaine dernière. Le banc d'essai sera donc, les Jeux olympiques seront le banc d'essai de la 5G, la nouvelle génération du réseau mobile, 10 fois plus rapide que la 4G actuelle, fera ses premiers pas à Pyeongchang. La 5G permet de transmettre des quantités phénoménales d'informations, des dizaines de gigabits par seconde. Cela signifie qu'on pourra télécharger l'équivalent, écoutez bien, de 30 films en une seule seconde.
C'est tellement utile.
C'est une bonne nouvelle pour les applications misant sur l'expérience immersive qui se révèle très gourmande en données.
Merci Monique. Ça va être ton test à chaque semaine. Prononcer le nom de l'endroit où auront lieu les Jeux olympiques. Marie, on a 30 secondes. Vas-y pour un mot d'ordre.
Alors, l'argument massue des parents, parce que je te le dis, c'est une raison suffisante, selon maman, d'après Franck, 9 ans et demi.
Et c'est là-dessus qu'on vous laisse quelques instants pour aller chercher un café, un jus d'orange. Et nous, on vous revient avec des histoires sur des robots, sur de la douance et encore du hockey. Alors, à bientôt. They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it?
Damon Albarn, je savais, j'allais m'enfarger sur ça. David. Oui.
T'étais même pas en onde, Audrey.
En plus, Colin. Damon Albarn nous chantait la chanson Everyday Robots, tirée de son album Everyday Robots.
Et ça nous permet de présenter le premier. Monique, tu nous fais deux petits articles dans ton intervention. Et ça commence par les bots. Robots à gogo.
Les robots à gogo. Alors, c'est Mathieu Perrault de la presse qui a décidé de donner ce titre à son texte. Ça date du 7 janvier 2018. Alors, on le sait, la robotique fait des pas de géant sous les mers et même la banquise, dans l'espace et maintenant dans la préhistoire. Mais le robot dont je vais vous parler, il est bien sur Terre et c'est un constructeur. Alors, des robots pourraient faire leur entrée sur les chantiers de construction et pas seulement pour transporter les objets lourds. Si l'on en croit des performances d'un robot mis au point par des ingénieurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le MIT. La plateforme numérique de construction du MIT a récemment servi à ériger un mur circulaire de 14 mètres de diamètre.
14 mètres?
Oui, et de près de 4 mètres de haut. Et a eu une bonne performance en plus pour nettoyer des débris. On aurait besoin de ça à Montréal. Le mur est fait de mousse isolante, durcissant à l'air, et le robot a mis une demi-heure pour le construire. Il est assez solide pour qu'un homme circule à son sommet. Alors, attachez vos baskets, les constructeurs. Il y a de la concurrence dans l'air.
Est-ce que ça peut faire des lignes de métro roses, mettons?
Ah ben écoute, tout est possible maintenant.
Il faudra en parler à quelqu'un. Hein?
Oui, exactement. Alors,
ton deuxième.
Mon deuxième, le titre est donc « Sonde anti-cancer ». C'est un article de Guillaume Roy, toujours dans le Québec Science, de janvier-février 2018. Alors, cancer, c'est le mot qui fait peur. Mais il y a pire, semble-t-il. La récidive du cancer.
Oui, oui.
Lorsque des chirurgiens retirent une tumeur du cerveau d'un patient, ils font de leur mieux pour enlever toutes les cellules cancéreuses qui pourraient l'entourer, justement pour éviter la récidive. Mais, cancéreuses ou pas, les cellules sont minuscules, nano, hein? Et il est impossible de toutes les voir à l'œil nu. Quand on considère que l'opération est terminée, on referme la boîte crânienne et on croise les doigts. Cette façon de faire sera bientôt révolue. Alors, le chercheur Frédéric Leblond nous dit « Nous avons créé un outil capable de détecter les petits nids de tumeurs qu'aucune autre technologie ne peut repérer. » Alors, M. Leblond est professeur au département de génie physique à Polytechnique Montréal, est aussi chercheur au centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRSJUM. Cet outil, c'est une sonde de la taille d'un crayon qui est équipée de filtres optiques, de capteurs et de lasers. Pendant une chirurgie, elle permet de balayer les tissus du cerveau pour repérer les vilaines cellules cancéreuses qu'elle peut identifier en 0,2 secondes. Elle y parvient en stimulant les cellules avec de la lumière et en analysant la signature spectrale obtenue. Elle travaille sur des zones de 0,5 mm de diamètre à la fois.
Et dans l'infiniment petit.
Oui. Alors, à l'avenir, les chirurgiens pourront détecter et enlever plus de cellules cancéreuses lors de l'opération, ce qui augmente l'efficacité des thérapies ultérieures et les chances de survie, ajoute toujours Frédéric Leblond, qui a travaillé en collaboration avec le neurochirurgien-oncologue Kevin Petreka à l'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal. Le fruit de leur recherche a été publié dans la revue Cancer Research en 2017. Le fonctionnement de la sonde repose sur trois principes. D'abord, la spectroscopie Raman, une technique qui analyse les vibrations uniques de différentes molécules stimulées par les lasers. Ensuite, la spectroscopie de réflexion diffuse pour décortiquer la lumière réfléchie par les cellules cancéreuses dans un large éventail de longueurs d'onde. Finalement, la spectroscopie de fluorescence qui passe au crible la réponse à différents stimulus des molécules fluorescentes présentes naturellement dans le corps humain. En bref, les trois techniques sont similaires. On envoie de la lumière, on détecte le spectre et on l'interprète pour savoir si statistiquement les différents tissus sont sains. La sonde est reliée à un ordinateur et l'analyse statistique se fait avec l'aide d'algorithmes qui comparent d'énormes ensembles de données provenant d'études cliniques afin de déceler la signature unique des cellules cancéreuses. Avec l'arrivée de nouvelles données chaque jour, le modèle de détection devient toujours plus précis, bien sûr. Efficace à 100%.
À 100%?
À 100%.
Comment on a pu établir ça?
La sonde a démontré qu'elle peut aussi détecter des cellules cancéreuses du côlon, de la peau et du poumon sous forme de métastases présentes dans le cerveau. Lorsqu'elle est pointée sur une région cancéreuse, la sonde ne se trompe pas. Ne se trompe, je m'excuse, jamais. Assure le chercheur qui l'a testé sur 15 patients dans le cadre de l'étude et sur plusieurs autres depuis. La technologie est si impressionnante qu'elle a été qualifiée de révolutionnaire par le Food and Drug Administration, la méga organisation qui réglemente les équipements médicaux aux États-Unis. Ainsi, la sonde pourrait être mise en marché d'ici 2 ans seulement, ce qui est assez rapide.
Ça ne fait pas partie de tes 10 découvertes, parce que ça m'a l'air vraiment...
Oui, ça fait partie des 10 découvertes. Celle-là est en médecine, la précédente était en génétique. Okay. Alors, entre-temps, les chercheurs souhaitent tester leur outil sur d'autres types de cancers, tout en développant une technologie qui analysera des surfaces beaucoup plus grandes. Alors, c'est encore une collaboration entre différents chercheurs, soit de génie, soit de neurologie, et ce, Montréal et aux États-Unis.
C'est vraiment intéressant.
C'est fascinant, comme dirait Charles Tsai. Mais moi, je viens de lire, pour vues et voix, un livre sur la luminothérapie.
Ah oui!
Et ce que tu viens de nous présenter, c'est encore une façon d'utiliser le pouvoir de la lumière pour pouvoir... C'est vraiment, vraiment... Ça a l'air très ésotérique au début.
Oui.
Puis là, on s'aperçoit, plus on analyse cette science-là, que c'est peut-être pas mal moins ésotérique qu'on pensait au début.
Exactement.
Merci beaucoup, Monique. Alors, Marie... On se préoccupe souvent des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, mais là, tu vas nous parler de l'autre bout du spectre.
Oui, donc, on va parler de douance et de douance au Québec. C'est un texte de Nathalie Couzon qui a été publié sur le site RIRE, le site RIRE, le réseau d'information pour la réussite éducative, le 16 janvier dernier. La douance a été longtemps tabou au Québec. Bien qu'il existe plusieurs organismes ayant à cœur la sensibilisation de la population à ce sujet, celui-ci est encore peu connu, non seulement de la population générale, mais aussi de la grande majorité des psychologues. Et ça, c'est quand même un peu étonnant. La docteure Marianne Bélanger, psychologue et neuropsychologue spécialisée de la douance, affirme que les psychologues jouent un rôle majeur dans le dépistage, l'évaluation, l'intervention et la sensibilisation liées à la douance. Les enfants doués sont à risque de présenter des problèmes émotionnels et comportementaux. De ce fait, l'Ordre des psychologues du Québec a publié en septembre dernier, en 2017, un dossier thématique intitulé « Parlons de douance au Québec ». De nombreuses définitions de la douance ont été proposées au cours des dernières années. La définition du docteur François Gagné, professeur de psychologie retraité à l'Université du Québec à Montréal, est reconnue internationalement. Voici cette définition. La douance, selon le professeur François Gagné, désigne la possession et l'utilisation d'habiletés naturelles remarquables, appelées aptitudes, dans au moins un domaine d'habileté, soit intellectuel, créatif, social, perceptuel ou moteur, à un degré tel qu'elle situe l'individu au moins parmi les 10 % supérieurs de ses pairs en âge. Quant au terme « talent », le docteur Gagné le définit comme la maîtrise remarquable d'habileté systématiquement développée cette fois. Tout à l'heure, quand on parlait de douance, on parlait d'habileté naturelle.
Donc, c'est plus inné.
Ici, en termes de talent, on parle d'habileté systématiquement développée, soit les compétences, soit les connaissances, les habiletés pratiques, par un individu dans au moins un champ de l'activité humaine, l'école, les arts, le sport, etc. Et ce, à un niveau tel que cet individu appartient aux 10 % supérieurs du groupe d'individus, ses pairs en âge, étant actif ou ayant été actif dans ce champ. Selon son modèle, donc, toute personne qui appartient aux 10 % supérieurs d'un groupe de référence approprié reçoit l'étiquette « doué », habileté naturelle ou talentueux, habileté systématiquement développée. Et ce sont, je vous présente des chiffres qui font réfléchir. Selon de récentes études, les enfants doués peuvent eux aussi avoir des besoins particuliers et rencontrer différents problèmes. Par exemple, on parle de problèmes de décrochage scolaire parce que les enfants doués, oui, peuvent représenter un taux de décrochage scolaire 3 fois plus élevé que celui de la population générale, ou un problème de diagnostic erroné. De 25 à 50 % d'entre eux reçoivent un diagnostic erroné de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, dans leur vie. 25 à 50 %. Ou bien ils peuvent présenter un trouble de l'écriture. Près de 50 % présentent un trouble de l'écriture. Ou un problème d'anxiété, 57 % ont un trouble d'anxiété généralisé à l'âge adulte, ou un problème d'idées suicidaires, de 8 à 10 % tiennent des propos suicidaires sérieux avant l'âge de 12 ans, ça c'est très préoccupant, ou un problème de dépression, 75 % ont vécu au moins un épisode dépressif dans leur vie.
Ça c'est 3/4, là.
C'est
presque tous. Là,
c'est vraiment impressionnant. Dans son article « Douance et talent à l'école », le docteur Jacques F. Richard, psychologue, rapporte que les experts s'entendent pour recommander des modifications dans le curriculum scolaire des élèves doués qui nécessitent qu'un sens soit donné à leur apprentissage. Il affirme également que ces enfants apprennent mieux en répétant moins. La répétition d'exercices et de travaux peut entraîner pour eux plusieurs conséquences négatives, un désintérêt pour le travail scolaire, des erreurs d'inattention, du travail de pauvre qualité et éventuellement un risque de décrochage. Alors, est-ce qu'un plan d'intervention est nécessaire pour les élèves doués? De nombreux experts soulignent l'importance de privilégier des interventions individualisées. La mise en place d'un plan d'intervention pour chaque élève permettrait notamment d'assurer la communication entre les professionnels impliqués dans chaque dossier d'une année à l'autre, d'ajuster le programme de l'élève en fonction de ce qui lui convient ou pas, de s'assurer que l'on continue d'offrir les services nécessaires malgré les différents changements possibles au fil des ans, d'éviter la répétition des apprentissages. Et je termine avec cette information. Il y a 6 articles qui composent le dossier thématique de l'Ordre des psychologues. On peut trouver les liens cliquables dans l'article original que je viens de vous lire sur le site du RIRE, sur www.rire.ctreq.qc.ca. Et c'est vraiment intéressant.
Merci beaucoup, Marie. Alors, de mon côté, je vous reviens avec
le hockey.
Un autre article qui touche le hockey. Mais là, ça va toucher tous les parents qui sont allés dans des arénas, dont je suis. Ça s'intitule « Être là ». Ça a été écrit par Patrick Lagacé dans la presse du 13 janvier. parmi les doux plaisirs d'être le père, vous pouvez traduire être la mère aussi, d'un joueur de hockey de 12 ans, il y a bien sûr celui de se faire tirer du sommeil au tout aussi doux son du réveil à 6 heures du matin, un samedi, pour un entraînement. Ça m'est arrivé une fois cette saison, la première de mon fils dans le hockey mineur. J'ai pris une photo de l'horloge, 6h41, en chiffres rouges. J'ai mis la photo sur Twitter avec ces mots « L'amour, c'est ça ». Malgré l'heure inhumaine, ce samedi-là, mon fil Twitter s'est allumé. Lui, il regarde ses écrans, même dans un aréna. Hein.
Oui.
Je n'étais pas seul. Un autre père m'a envoyé des paroles de sagesse. Des paroles faciles à oublier un samedi matin quand on a un œil encore fermé à moitié par de la colle d'oreiller. Profites-en, un jour, ça te manquera.
C'est joli, de la colle d'oreiller,
oui, hein?
Pour fermer les yeux.
Ticu, le sport a été important pour moi. Et dans le grand totem des joies de mon enfance, tout là-haut, avec manger du Maple Spread à la cuillère, il y avait le plaisir de marquer un but dans un match de hockey. Je parle de ce moment d'éternité où tu comprends que ton tir a battu le gardien. J'avais donc peur qu'en ne jouant pas pour vrai dans une équipe, l'héritier ne passe à côté de quelque chose, que son enfance ne soit inadéquate. Au début, pendant le camp d'entraînement, il avait de la misère à se tenir debout.
Faut que tu puisses.
Oui. Je me suis dit que cette joie pure d'un but marqué, pour lui, ne serait pas pour cette année. Mais il ne lâche jamais. Au hockey mineur, on entend souvent parler de dérapage de la part des parents, des arbitres et des bénévoles. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais j'ai vu des parents qui encouragent leurs enfants sans délirer. J'ai vu des entraîneurs qui ne font pas jouer les meilleurs sur l'avantage numérique, qui font jouer ceux et celles dont c'est simplement le tour de jouer. J'ai vu des arbitres se faire remercier par des parents et par des entraîneurs après des parties. J'ai vu des bénévoles, entraîneurs et gérantes d'équipes, dirigeants d'associations, être à 6h37 à la porte de l'aréna un samedi ou à 19h30 à l'autre bout de la ville après une journée de travail pour une partie que nous allons perdre 8-0. Dans le sport organisé, il y a une belle métaphore de ce que peut être le meilleur de la société. Et j'ai aussi vu, après les entraînements et les matchs, gagne ou perd, parmi les plus beaux sourires à avoir jamais illuminé le visage de mon fils. Soudainement, il s'anime et a 1000 anecdotes à raconter sur ce qui s'est passé sur la glace. Notre équipe n'est pas extraordinairement douée. On parle de la douance. Mais elle ne lâche jamais. Nos joueurs ne sont pas les plus doués, mais ils s'améliorent de semaine en semaine. C'est hallucinant de constater leur progrès.
Ah, peut-être talentueux.
Voilà. Peut-être, oui. Il faut qu'ils travaillent.
Oui.
Le mien, ce n'est pas le même joueur que celui qui a donné ses premiers coups de lame en nous. Il est devenu élégant.
Ah.
Et c'est ainsi qu'il y a quelques semaines, un de nos attaquants s'est débattu dans le coin de la patinoire pour en sortir la rondelle qu'il a héroïquement passée dans le tas de joueurs devant le filet. Notre numéro 47 a délicatement sorti la rondelle du paquet de patins et de bâtons qui luttait pour la toucher. Il a reculé, levé la tête, cherché l'ouverture, armé son tir et paf, il a décoché. But! Le premier but à vie de mon fils. Il restait 8 minutes au match, ça nous lançait en avance au score. Nous l'avons conservé. Première victoire de l'année. Joie pure pour lui aussi. À hauteur de Ticu, c'est la chose la plus banale, normale du monde, te faire trimballer à l'aréna par ton père, par ta mère. À hauteur d'adulte, c'est parfois la chose la plus emmerdante de ta journée, bien honnêtement. Un cauchemar logistique dont tu te passerais bien. Un dos d'âne dans ta journée de fou.
Ça aussi, c'est joli.
Oui, c'est une belle, hein?
Oui.
En même temps, dans le grand ordre des choses, celui qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est peut-être la chose la plus importante du monde comme parent. Être là. Trimballer mon fils depuis août dans les arénas de la ville m'a donné une appréciation pour un homme qui n'est plus de ce monde, mon père. Il n'était pas parfait, mais il était là. Maintenant adulte, en regardant dans ce rétroviseur de la vie, je sais que ce ne sont pas tous les fils qui ont eu cette chance. Et c'est ce qui est formidable avec le hockey, je trouve. Même si je ne joue plus depuis 30 ans au moins, ce sport m'en apprend encore sur la vie. Alors, c'était l'article, c'était des extraits de l'article « Être là » de Patrick Lagacé dans la presse du 13 janvier.
Très touchant.
Oui.
Alors, Monique, on a un peu de temps et on va faire une suite au 5G.
Une suite au 5G.
Avec... Oui, ça va pouvoir te permettre de dire le nom de l'endroit.
Oui, on est toujours à Pyeongchang.
Pyeongchang.
Et on parle toujours de Jeux olympiques.
Oui.
Alors, je poursuis donc. Le déploiement de la 5G sur les sites olympiques permettra aux visiteurs de vivre la compétition en temps réel en adoptant le point de vue de l'athlète, imaginez, grâce à ses lunettes de réalité virtuelle avec une vision à 360 degrés. Alors, ils pourront aussi y accéder à l'aide d'un téléphone mobile. Il y aura donc des téléphones mobiles disponibles pour les spectateurs, non pas à la maison, mais sur le site. Et pour ceux qui seront à la télévision, ben, il y aura des épreuves diffusées en direct sur le web. Et ce n'est qu'en 2020, vraisemblablement, que nous aurons accès
au 5G.
Mais peut-être avant, on ne sait jamais, les Olympiques, qu'est-ce que ça peut faire?
On a tellement hâte! Marie, c'est à toi.
Oui, dans la série « Qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger, aller dehors, au pays des animaux sauvages », le parc Omega, non pas à Pyeongchang, mais en Outaouais, est ouvert même en hiver. En voiture, sur un parcours de 15 km, on peut voir des animaux, dont des cerfs, des daims, des wapitis, des bouquetins des Alpes et des sangliers que l'on peut nourrir avec des carottes. Attention, votre voiture sera pleine de baves de cerfs en sortant, mais ça fait partie du plaisir de la visite. Il y a aussi des loups gris, des ours noirs et des bisons.
Wow.
J'aimerais beaucoup aller là.
Tous des animaux qu'il n'y a pas à Pyeongchang.
Ah ben là, on ne sait pas.
Alors, 2%, le chiffre de la semaine, 2%, c'est le pourcentage des travailleurs français circulant à vélo. Ça m'a pas l'air beaucoup.
Non.
La ville de Strasbourg, la plus dynamique en la matière, affiche un 16% comparé à la part modale du vélo. Les Parisiens traînent de la patte avec un modeste 2%. C'est l'autoboulot qui remporte la panne, obtenant un gros 70% des déplacements quand même. Il nous reste une minute, mesdames. Monique.
C'est un peu trop long pour une
minute. C'est un peu trop long pour la capsule.
Oui, je pense qu'on va faire le petit mot d'enfant.
Les petits mots d'enfant, peut-être, oui. J'en ai deux. Alors, premier, cannibale. Selon Marco, 9 ans, c'est un homme qui aime son prochain en sauce. Et la tendresse, selon Mélusine, 5 ans et demi, c'est être deux. Si vous avez cette chance, profitez-en.
Oh! Et avant de faire les remerciements, je vous dis que 15 mois, c'est la condamnation à la prison qu'a reçu le voleur de deux vélos de la cycliste paralympique Marie-Ève Croteau à la veille des Jeux de Rio. Une des deux montures avait été retrouvée et Louis Garneau en avait offert une autre à l'athlète afin qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Alors, 15 mois, c'est quand même pas tellement pour un vol comme ça. Je remercie Mathieu Tessier à la console, Monique et Marie, et on vous retrouve jeudi prochain.
Au revoir.